Merci l'invitation du professeur Jean-Louis Cohen. Alors, ces dernières années, on le sait, ont vu la création de nombreux projets de restructuration urbaine dans lesquels les musées et d'autres équipements culturels ont joué le rôle de catalyseur de la transformation des villes. Et souvent, ces villes avaient des ambitions touristiques. Plus récemment, depuis le succès médiatique du musée Guggenheim de Bilbao, nombre d'élus et de techniciens des collectivités publiques partagent la conviction que de grands équipements culturels possédant une forte identité architecturale permettent de modifier l'attractivité touristique mais aussi économique des destinations. Et c'est la question que je voudrais aborder. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'on peut réunir des éléments convaincants à ce sujet et est-ce qu'on peut tirer des enseignements des différentes expériences qui seront présentées? Alors, les motivations des touristes sont complexes, celles des visiteurs en général, mais on peut observer que leur choix d'une destination est lié à différents facteurs. Alors, soit ils choisissent des destinations qui ont une forte identité ou une forte histoire, comme des villes telles que Berlin ou Barcelone, soit ils choisissent des villes avec une composante culturelle de premier plan, comme à Vienne ou à Florence, ou une ambiance, parfois, comme à Dublin ou à Marseille. Et puis parfois, ils sont réceptifs à des stratégies volontaristes de développement, comme pour des villes telles que Liverpool ou Lille, qui ne sont pas des destinations qui n'étaient pas autrefois touristiques naturelles. Et parfois, c'est lié aussi à des grands événements, tels que le Festival d'Édimbourg ou celui d'Avignon. Alors, il faut bien reconnaître que dans cette configuration, les grandes capitales bénéficient d'avantages sans égal. Je pense à des villes comme Paris, Rome, Madrid ou Londres, puisqu'elles disposent de grandes infrastructures culturelles, de loisirs, de transports, de nombreux moyens de déplacement, de dispositifs de loisirs et également d'endroits de restauration et d'hébergement de toute nature. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que même ces vedettes, si je puis dire, du tourisme international ont besoin périodiquement de renouveler leur offre et leur image. On en a l'exemple ici à Paris avec un contrat de destination qui s'inscrit dans le cadre du projet du Grand Paris et qui cherche à aller au-delà de la traditionnelle offre muséale et patrimoniale de la capitale. Alors, il faut rappeler, s'agissant de la dimension économique, que celle-ci repose traditionnellement sur des éléments tels que l'hébergement, le transport, la restauration, les commerces, mais qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui favorise la déambulation urbaine, la découverte en profondeur ou la simple flânerie contribue significativement à allonger la durée de séjour, ce qui en soi est capable d'entraîner des retombées économiques. Parce que les visiteurs qui restent davantage dans la destination, au-delà de la visite des grands équipements, vont, à l'occasion de leur flânerie, effectuer probablement des achats dans les cafés, dans les galeries, dans les marchés aux puces, chez les antiquaires, dans les brocantes, etc. etc. Cela suggère, cette simple observation, que il convient de ne pas prendre uniquement en considération les grands équipements de prestige, si on vise un impact économique, mais aussi tout ce qui fait le charme de la découverte d'une ville au plus près de la vie de ses habitants. Et on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de touristes ne veulent pas être vus comme des touristes, ils veulent se comporter finalement assez proche du quotidien des résidents. Alors, y contribuent les parcs et jardins, par exemple, le petit patrimoine, les animations de rue, les lieux insolites, les marchés, les spectacles de rue, un ensemble de choses qui font la qualité de la vie urbaine. Alors, cela nous conduit également à l'observation que la participation des habitants, ou du moins leur adhésion au projet de développement touristique, devient cruciale. Parce que ce sont eux qui sont au contact avec les habitants, avec les visiteurs, qui peuvent faire partager leur sens de l'accueil, qu'ils peuvent leur faire partager leur bon plan, entre guillemets, et qui, le cas échéant, peuvent servir de guide bénévole sur le modèle des greeters, que nous connaissons dans le monde entier. Et à l'inverse, lorsque on est confronté à ces phénomènes de surfréquentation, on court le risque d'un rejet de la part des habitants, et on le constate dans des villes extrêmement soumises à cette pression touristique, comme à Amsterdam et surtout à Barcelone, où cela suscite des réactions de nature politique. Alors, je voudrais prendre l'exemple de la ville de Nantes, à présent, qui a assis son projet de développement et sa stratégie de médiatisation sur la valorisation d'un ensemble de ressources artistiques et sur l'alliance entre le patrimoine, d'une part, et les manifestations événementielles autour, notamment, de la musique, les folles journées de Nantes, qu'on connaît bien, et l'art contemporain. Par conséquent, ici, ce n'est pas un grand équipement culturel de prestige qui constitue l'élément attractif de la ville, mais plutôt un ensemble de composantes. On peut y voir, à mon sens, plusieurs raisons. D'une part, les élus, les techniciens de la ville ont probablement perçu les limites des stratégies inspirées de l'exemple de Bilbao, on y reviendra. D'autre part, ils ont peut-être souhaité s'appuyer davantage sur l'identité et l'histoire de la ville. Et enfin, il n'est pas exclu, il faut bien le reconnaître, que cette solution soit apparue moins coûteuse que la construction d'un grand bâtiment destiné à servir d'emblème au développement du territoire, comme on le voit actuellement à Bordeaux avec la Cité du Vin, ou à Lyon avec le Musée des Confluences, avec des sommes en jeu qui sont importantes. Donc la ville cherche à mettre en cohérence un ensemble d'offres culturelles et touristiques, les célèbres machines de l'île, connues dans le monde entier, mais aussi le mémorial de l'abolition de l'esclavage, le lieu unique, très connu également, la cathédrale, le musée des Beaux-Arts, ou encore le château des Ducs de Bretagne. On peut souligner que ces projets apparaissent en cohérence avec le passé de Nantes, la mémoire du commerce maritime, l'esprit, le souvenir de Jules Verne, ou encore la réappropriation de bâtiments industriels. Alors, en termes, il est difficile à ce moment-là de tirer un bilan rigoureux de l'impact économique et touristique de ces projets, mais on peut souligner sans aucun doute que l'impact médiatique du positionnement culturel de l'agglomération nantaise est reconnu et sans doute participe à l'attractivité du territoire. Alors, venons-en maintenant aux grands équipements eux-mêmes. Dans d'autres villes, en effet, d'importants équipements occupent une place particulière dans les stratégies de développement. Parfois des bibliothèques, on a parlé de Seattle, plus rarement des conservatoires de musique ou de danse, ou des centres d'archives, mais plus généralement, on l'a dit, à la fois des salles de spectacle et surtout des musées. Qu'on pense à Denver, qu'on a évoqué, Toronto, Athènes, Porto, Milwaukee, toutes sont plus ou moins atteintes du syndrome, si vous me permettez, de Bilbao. Or, je vous indiquerai à cet égard que force est de constater que la force du tourisme architectural, si on peut appeler ça de cette façon, ne paraît pas suffisante à elle seule pour susciter un courant de visites réguliers se maintenant à un niveau élevé. La meilleure preuve, selon moi, est qu'aucune ville, à ma connaissance dans le monde, n'a réussi à rééditer l'exploit de Bilbao, qui résulte en réalité, nous le savons maintenant à travers de nombreux écrits, d'un ensemble de composants de nature stratégique allant bien au-delà du musée construit par Frank Gehry il y a une quinzaine d'années. Nous savons aujourd'hui que ce dernier est venu en réalité couronner de gigantesques investissements dans le domaine des transports, de l'aménagement urbain et de l'urbanisme. Et la meilleure preuve également de cela, c'est que beaucoup de visiteurs aujourd'hui se rendent à Bilbao du fait de l'attractivité de la ville sans nécessairement se rendre, ou en tout cas visiter, le musée Guggenheim. Alors, du coup, le rôle de ces grands équipements peut être envisagé de deux façons. D'une part, incontestablement, leur présence enrichit le cadre de vie et renforce l'attrait de la cité auprès des populations résidentes, dans le même temps où l'élévation du niveau d'éducation favorise, d'une manière générale, une plus grande appétence pour la pratique artistique et la consommation de produits culturels. D'autre part, dès lors qu'ils manifestent des qualités exceptionnelles, ces équipements culturels contribuent à façonner l'image des villes et à renforcer leur attractivité, y compris, comme on l'a souligné, sur le plan touristique. Mais la faculté des musées et des équipements culturels en général à produire des externalités positives dans leur environnement n'est pas automatique. Elle suppose en premier lieu que leur développement s'insère dans la stratégie de développement du territoire et sans pour autant tomber, et je conviens que c'est une frontière difficile à tracer, sans pour autant tomber dans une forme d'instrumentalisation qui serait, à mon sens, contre-productive. Et elle suppose, second élément, qu'existe une ingénierie de projet capable de valoriser l'ensemble des effets potentiels que possède intrinsèquement l'équipement, mais qu'il convient de révéler. Que ces potentiels soient de nature éducative, sociale, touristique, économique ou d'image. Ils peuvent se produire, mais ils peuvent ne pas nécessairement se produire d'emblée. À défaut d'avoir cette vision d'ensemble, de nombreux équipements à vocation structurante échouent en réalité à répondre aux attentes des DIN qui parfois confondent l'impact éphémère d'une offre inédite et la création d'une demande durable. Dans ce domaine, en effet, l'action publique commande en premier lieu de s'attacher pleinement à la réussite artistique ou scientifique d'un musée, d'autant que les économistes, en ce qui les concerne, sont enclins à s'en tenir à une certaine prudence à l'égard de leurs retombées en termes de création de richesses ou d'emplois. Autrement dit, souvent, les économistes sont beaucoup plus prudents que les responsables de la culture pour déterminer l'importance des retombées économiques de ces mêmes équipements. En effet, à l'exception de sites qui constituent en eux-mêmes les destinations, car les visiteurs les choisissent comme but de visite, pensons au Mont-Saint-Michel ou au Château de la Loire, en réalité, pour le reste, pour la plupart des visiteurs, ce sont des régions comme la Provence, la Catalogne ou la Toscane, ou une ville, dans le cas du tourisme urbain, qui constitue en réalité la destination choisie par les touristes, bien avant le cas de tel ou tel équipement culturel. Autrement dit, le choix des visiteurs est le résultat d'un ensemble de considérations dans lesquelles la présence d'une icône architecturale consistera un plus. Mais, même dans le cas, d'ailleurs on le voit dans le cas de l'Opéra de Sydney, un des bâtiments les plus célèbres dans le monde, on peut soupçonner que la plupart des visiteurs choisissent d'abord la destination australienne et la destination de la région de Sydney avant de se rendre dans l'Opéra de la ville. Alors, la présence d'une architecture contemporaine remarquable peut, de fait, convenons-en, jouer un rôle intéressant en termes de communication parce qu'elle peut contribuer à forger un imaginaire qui contribue au branding, dont on a parlé tout à l'heure, des métropoles, mais se reposer sur ce seul facteur serait probablement hasardeux, comme l'ont constaté les villes qui ont tout misé sur un bâtiment emblématique tel que la nouvelle aile d'un musée ou une architecture à l'allure futuriste. Du reste, la multiplication dans le monde entier de ces flagships contribue concomitamment à l'affaiblissement de leur impact. Est-ce qu'on peut toujours construire plus grand, plus extravagant, plus insolite ? Et si c'est le cas, ça signifie probablement construire de façon plus coûteuse et avec encore davantage de dépenses de promotion. Abu Dhabi, qu'on a évoqué, est peut-être le symbole justement de cette forme de course aux armements, si je puis dire, culturelle. Le contenu importe moins que l'enveloppe et le nom d'architecte réputé auquel on accole à grands frais des marques culturelles prestigieuses, le Guggenheim, le Louvre, en l'occurrence. Avec un double effet, à court terme, on peut souligner que, et c'est un résultat tout à fait incroyable, avant même que les bâtiments soient sortis de terre, et certains ne sortiront jamais de terre, certains ont déjà été abandonnés, une communication planétaire surpuissante assure une couverture médiatique considérable. Et à plus long terme, l'achat d'une marque au prix fort, hein, il faut le rappeler, forme moderne, si je puis dire, de mercenariat artistique, fait gagner plusieurs années de communication à un territoire désireux de s'imposer à l'échelle internationale. Alors, très loin de ces considérations, j'ai envie de citer un musée qu'on n'a pas encore évoqué, me semble-t-il, le musée Soulages de Rodez, qui a, lui, apparemment réussi son lancement, un très bon accueil critique et public, quasiment inattendu, un rôle notable dans l'aménagement d'un nouveau quartier situé dans le prolongement de la cathédrale, et une réelle ambition touristique. Reste à transformer, et c'est l'enjeu des prochaines années, l'essai d'un point de vue touristique, ce qui suppose, à mon sens, la définition d'une stratégie de développement de la destination s'appuyant sur son patrimoine, sur son offre commerciale d'hébergement et de restauration, ainsi que sur la proximité d'autres offres culturelles de qualité, pensons à Conques, à Millau, à Villefranche-de-Rouergue ou à Figeac, la ville de Champollion. Alors j'en viens maintenant à deux grands équipements, très connus dans le cas français, bien entendu, le Centre Pompidou-Metz et le Louvre-Lens, qui sont issus de mouvements de décentralisation d'institutions nationales, dans les deux cas en relation, bien entendu, avec les collectivités territoriales concernées, et qui ont misé sur la réalisation de cet équipement pour redynamiser leur territoire. Alors je dirais qu'on peut effectuer certains parallèles, c'est-à-dire que depuis leur ouverture, l'évolution de la fréquentation a été relativement analogue, c'est-à-dire un démarrage très rapide, hein, quasiment en flèche, suivi d'un fléchissement notable. Il n'y a pas lieu pour autant de s'en étonner outre mesure, car cela est conforme à ce que l'on peut observer dans nombre d'équipements culturels qui ont ouvert ou touristiques ces dernières années. En effet, en raison d'une forte attente de la population après des années de travaux et d'une forte médiatisation à l'ouverture qui alimente un phénomène de curiosité, la lente montée progressive en puissance que l'on observait dans les années antérieures, laisse la place, en réalité, à un très fort démarrage dès l'ouverture, ce qui laisse entière la question du maintien de la fréquentation à haut niveau dans la durée. Évidemment, les musées sont là pour durer, quasiment pour l'éternité. Donc, c'est la question principale au-delà de l'ouverture. Alors, n'ignorons pas ce que je viens de dire, les établissements de Metz et de Pompidou ont cherché à s'en prémunir avec un modèle fondé sur le renouvellement régulier de grandes expositions temporaires. Mais évidemment, une fois étant dit cela, ça laisse la question de l'attractivité en dehors de ces grands établissements, en dehors de ces grandes manifestations, pardonnez-moi. Une autre façon de relativiser une certaine forme de déception, il faut bien le dire, à l'égard de la fréquentation actuelle de ces deux équipements, quelques années après l'ouverture, consiste en réalité à observer qu'on est probablement proche de ce que peuvent accueillir ces équipements lorsqu'on raisonne en termes de composition des bassins de chalandise et de la nature des flux touristiques qui les caractérisent l'un et l'autre site. Alors, autre interrogation qui va au-delà du simple nombre de visiteurs. Le nombre de visiteurs en lui-même n'est pas nécessairement une indication complète de l'impact économique de ces équipements, parce qu'une majorité de ces visiteurs peut provenir de territoires relativement proches. Dès lors, cela engendre un nombre limité de nuitées et par conséquent des dépenses touristiques d'un montant relativement limité. D'ailleurs, à Metz, on voit bien que 3/4 des visiteurs proviennent de France, dont une majorité, bien entendu, de Lorrain, et que les étrangers viennent, eux, de pays limitrophes, l'Allemagne, la Belgique ou le Luxembourg, et qui, dans ce cas, si c'est le cas, ressortissent davantage à la catégorie des excursionnistes, gens qui font l'aller-retour dans la journée, plutôt qu'à celle, en réalité, des touristes. Alors, si je viens maintenant au cas du Louvre-Lens, je cite, pour montrer l'encadrement, si je puis dire, économique du projet, le choix de Lens, et je cite, est une opportunité exceptionnelle, celle de redéfinir un territoire fortement marqué par la crise industrielle et sociale en pariant sur son attractivité culturelle. En outre, on pouvait lire à l'ouverture que le Louvre-Lens sera le catalyseur d'un nouveau développement économique, d'une transformation profonde et durable du territoire. Donc, l'instrumentalisation du Louvre-Lens à des fins économiques ne fait pas de doute. Or, quelques années après, si on lit le journal économique Les Échos de janvier de cette année, je cite, le musée du Louvre-Lens, en réalité qui n'est pas un musée au sens de la loi française, mais ça c'est un autre débat, peine à redynamiser, je cite toujours, l'ex-territoire minier. L'équipement culturel n'a pas généré la dynamique économique espérée par l'ancien bassin minier et son coût inquiète, 15 millions de budget de fonctionnement annuel, de fonctionnement, face à une fréquentation qui plafonne. Quatre ans après son ouverture, je termine la citation, nulle trace de cet effet Guggenheim. Alors, comment comprendre cette situation contrastée, on le voit bien. Un territoire qui, manifestement, était insuffisamment préparé à la venue de cet établissement. Deuxièmement, là, on peut avoir des avis différents, mais bon, c'est le débat, une architecture élégante, mais peu spectaculaire. Et troisièmement, une dissociation des logiques relatives au musée, d'une part, au classement des sites miniers au patrimoine mondial, qui était évidemment une chose extraordinairement importante, et enfin, aux logiques propres aux sites de mémoire qui, quant à eux, liés à la Première Guerre mondiale, attirent de très nombreux visiteurs étrangers, notamment venus du monde anglo-saxon. Sans oublier, je le mentionne également, une stratégie de développement touristique qui est encore en devenir. Alors, à défaut de réussite sur le plan touristique, d'être pleinement convaincant sur le plan économique, est-ce qu'on peut parler d'une réussite sur le plan de la démocratisation culturelle, qui était le pendant, en réalité, de la stratégie de développement économique. Il y avait deux justifications, le développement économique du territoire et la démocratisation culturelle. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Lorsque on examine les chiffres qui viennent du musée lui-même, du Louvre-Lens, on constate qu'on est confronté à un public habituel, je dirais, de musée, de gens un peu âgés, fort niveau d'éducation et familier de la visite muséale. Et cela même dans une configuration où, je le rappelle, la galerie du temps, c'est-à-dire l'espace qui accueille des œuvres venant du Louvre, cette galerie du temps est gratuite. Donc, mais avant de conclure, si on prend acte en définitive des limites je viens d'évoquer que rencontrent ces grands projets, on peut se demander s'il ne conviendrait pas d'explorer des voies que je qualifierais d'alternatives, mais je n'entrerai pas dans le détail. Donc, pour conclure, ces deux exemples, mais d'autres également, suggèrent qu'un signal architectural peut jouer un rôle notable en termes d'image et de communication, mais qu'il reste généralement insuffisant à lui seul pour enclencher une dynamique vertueuse et pérenne de développement touristique. En effet, il ne peut jouer qu'un rôle de dynamiseur, de catalyseur d'une politique de développement pensée globalement. Et c'est pourquoi j'en reviens à l'idée qu'une ingénierie de projet permettant de favoriser la réussite des équipements culturels devra reposer sur probablement plusieurs éléments, caractère global de la stratégie dans lequel s'insère le musée, on l'a évoqué, l'établissement de liens dans le territoire, de partenariat, de coopération avec les acteurs du territoire, dans le domaine éducatif, dans le domaine social, dans le domaine touristique, et la participation de cet équipement à de multiples réseaux. Il ne peut pas être perçu comme hors sol, déconnecté du territoire qui l'accueille. Et c'est à ce prix, me semble-t-il, qu'on pourra passer de la simple création d'une offre culturelle nouvelle, dont la capacité à susciter l'attention risque d'être éphémère, à la participation tangible d'un musée, pour la part qui lui revient, à la mise en œuvre d'une stratégie globale de développement urbain. Je vous remercie de votre attention.